Radio Campus, il est 8h.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tous Essentiels, l'émission qui explore le revenu de base et toutes ses composantes. Aujourd'hui, merci à Nadia qui va remplacer notre cher Max. Elle sera aux manettes et elle vous donnera vos pauses. Petite respiration musicale. Le thème du jour est en plus un peu aride, ardu, mais néanmoins, nous l'aborderons avec toute la vulgarisation nécessaire, c'est la monnaie. Et j'accueille Cyril Libert. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On s'est rencontrés dans le milieu militant lillois autour de la monnaie, du revenu de base, de la monnaie libre.
C'est ça.
Donc je vais commencer par la question habituelle. J'imagine que tu as signé l'initiative citoyenne européenne.
Mmh. Mmh.
Alors, dis-nous, avec un revenu de base, imaginons si demain, à partir chaque mois, tu recevais suffisamment pour vivre, qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Je pense que je pourrais plus facilement me permettre de travailler sur des projets associatifs, notamment dans les communs, et revenir un peu sur un projet sur lequel je travaillais en 2015, des développements de machines en open source. Donc, on diffuse les plans. Pour que les gens viennent fabriquer ce qu'on a conçu. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, nos auditeurs ont déjà entendu un peu parler des communs, puisque en avril, on a fait une émission sur le lien entre le revenu de base et la transition écologique. Mmh. Et on a beaucoup parlé, évidemment, des communs et leur gestion. Merci beaucoup de rajouter une couche. Et alors là, aujourd'hui, j'ai envie de commencer à t'exploiter sur un défi, c'est nous expliquer en quoi l'argent est magique ou pas en Europe, et surtout, comment est-ce qu'on le crée aujourd'hui ? C'est quoi cette monnaie dette dont on parle ?
Alors, effectivement, la monnaie dette, donc là, on parle de l'euro, du dollar, du yen, voilà, toutes ces monnaies usuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, ces monnaies-là, en tout cas, sont créées par la dette, comme tu le dis. Donc, comment ça se passe ? C'est quand une entreprise, un particulier, vient faire un emprunt auprès d'une banque privée, la banque crée la monnaie à ce moment-là. De toute pièce. Elle prend le droit de créer la monnaie. La monnaie est donc confiée à la personne qui a pris l'emprunt. Et une fois que l'emprunt est remboursé, la banque supprime, annule la monnaie créée. Sauf qu'on le sait bien, on ne rembourse pas que l'emprunt emprunté à la banque, mais aussi les intérêts. Et le fait de rembourser ces intérêts, c'est ce mécanisme qui fait augmenter la masse monétaire de l'euro.
D'accord.
Et donc c'est forcément par la dette que l'euro se crée. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir rembourser son propre emprunt et surtout les intérêts, il faut forcément les piocher dans l'argent d'une autre personne, d'une autre entreprise qui elle-même a pris un emprunt pour pouvoir rembourser l'emprunt plus intérêts.
Oui, mais alors, il n'y a pas que les individus, parce que j'ai lu, par exemple, que l'État français, dans les années 80, il avait 200 milliards d'euros de dettes. Alors évidemment, avec mon porte-monnaie, ça semble énorme, mais ce n'est pas tant que ça. Et qu'en fait, si cette dette avait été prêtée à taux zéro, on l'aurait remboursée depuis longtemps. Mais comme ça a été prêté, tu l'as dit, avec intérêt, ben aujourd'hui, on a encore 2800 milliards à payer. C'est quand même aberrant. Surtout que du coup, ça oblige l'État français à faire des emprunts chaque trimestre pour pouvoir payer quoi ? Les intérêts de la dette.
Mmh. C'est ça.
Bon. Alors justement, quel est le lien avec le revenu de base ? La plupart des versions de revenus de base qu'on connaît ou dont on entend parler même par les politiques, elles sont basées sur des financements de redistribution, des prélèvements soit par l'impôt sur le revenu, la TVA ou différentes taxes. On a parlé lors de notre émission sur la transition écologique en avril sur aussi des biens communs, des services publics ou des gratuités. C'est une autre façon de financer. Mais aujourd'hui, on va parler de création monétaire. Un petit exemple d'injection extérieure comme ça de monnaie sur un territoire, c'est ce qui se fait en gros sur les expérimentations actuelles, la plupart étant ponctuelles et recevant de l'argent, alors soit d'une fondation, soit voilà, des cadeaux, un cadeau ponctuel. Donc c'est bien de l'argent qui est injecté sur un territoire. Et l'exemple, par exemple, en Namibie, après seulement un an et demi d'expérimentation, ils ont calculé que la masse monétaire avait augmenté de 300%. Au-delà de ce que le revenu de base avait été distribué. Du coup, ça avait augmenté de 29% le revenu par habitant et, à l'inverse, fait baisser le chômage de 45 à 60%. En Ouganda, même ressort, mais c'était 50% de revenu par habitant qui a été gagné. Et en Inde, l'épargne a été multipliée par 3. Donc on voit que le fait d'injecter de l'argent dans un territoire, on est bien loin de cette espèce de peur fantasme de l'inflation généralisée qu'on a pu vivre dans les années 30. Vu les masses monétaires en jeu aujourd'hui, il n'y a aucun risque de ça. Et on voit déjà que le fait d'injecter de l'argent, ça stimule l'économie parce que les gens, du coup, ils ont des fluidités. Ils peuvent se rééchanger des services, des biens. Et ça stimule l'activité économique qui, elle-même, va faire de la production et de la consommation, etc. Donc aujourd'hui, on va commencer par un peu de musique, le temps que vous avaliez déjà cette espèce de tsunami que vous venez d'apprendre, que l'argent est créé de nulle part et que c'est bien de l'argent magique et qu'il n'y a que la politique qui choisit à qui elle veut le donner. On va écouter en musique les euros qui volent et ensuite, si j'avais 1,50 franc. Et on enchaînera avec le témoignage d'Olivier. Merci Nadia.
Un matin pour la bonne année, il y a des euros qui vont voler. On a eu une nouvelle monnaie, il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
On était content de toucher, il y a des euros qui vont voler. Les nouvelles pièces, nouveaux billets, il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Et pour nous éviter de compter, il y a des euros qui vont voler. On arrondit au-dessus du trait. Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Les étiquettes ont dérapé, il y a des euros qui vont voler. Sur le talus, pas dans le fossé. Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Kilo de patate a augmenté, il y a des euros qui vont voler. Mais le nombre de grammes n'a pas bougé. Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
La douzaine de a augmenté, il y a des euros qui vont voler. Mais il n'y en a pas 13 dans le boîtier. Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Prix du poulet a augmenté, il y a des euros qui vont voler. Mais l'éleveur n'est pas mieux payé. Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Prix du savon a augmenté, il y a des euros qui vont voler. Une bonne raison pour plus laver, il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
La tasse de thé a augmenté, il y a des euros qui vont voler. C'est pas la mienne, j'en bois jamais, il y a des euros qui volent. Qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler.
Prix des capotes a augmenté,
il y a des euros qui vont voler.
Par mon Zibil, j'ai vérifié, il y a des euros qui volent, il y a des euros qui vont voler. Il
y a des euros qui volent, qui volent. Il y a des euros qui vont voler.
Il y a que le petit noir qui a baissé.
Il y a des euros qui vont voler.
Oui, mais la tasse a diminué. Il y a des euros qui volent, qui volent. Il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, qui volent. Il y a des euros qui vont voler.
Je suis pas plus pauvre que l'an dernier.
Il y a des euros qui vont voler.
Mais les ai avec un grand B. Il y a des euros qui volent, qui volent. Il y a des euros qui vont voler.
Il y a des euros qui volent, qui volent. Il y a des euros qui vont voler.
Il y a pas mal de dettes qui disparaîtraient, tu vois, parce que ça fait un an et demi que je tiens mon appart à bout de bras, je fais toujours la manche et tout. J'ai deux trois chantiers de temps en temps pour payer le loyer, parce que déjà faire la manche pour des trucs quand tu bouffes ou quand tu fumes, c'est déjà assez chiant comme ça. Alors pour des sous qui sont pas pour toi, c'est encore plus chiant. Donc ouais, ça fait, voilà. Donc en soi, ouais, ça ferait pas de mal, mais c'est ce qu'on va en faire, quoi. C'est toujours ça la question.
Alors, on vient d'écouter Olivier qui a 20 ans et qui galère vraiment à trouver du boulot et à assumer son autonomie, c'est-à-dire même payer son logement. Et on va vous parler du coup maintenant de la monnaie hélicoptère. Alors la monnaie hélicoptère, c'est une image qui fait un peu rêver. Imaginez un hélicoptère qui se balade, qui vous passe au-dessus et qui lance des billets. On va tous se précipiter. Bon, plus sérieusement, c'est une idée très très concrète qui a ressurgi en 2015. 19 économistes européens ont signé une lettre ouverte à la Banque Centrale Européenne, on vient de vous le dire, qui crée la monnaie, et qui pourrait en fait... Ben, comme elle crée déjà de la monnaie pour rien, à peu près 80 milliards d'euros par mois qu'elle confie aux banques privées, en espérant ce fameux ruissellement, c'est-à-dire que les banques privées nous les prêteraient gentiment pour qu'on puisse créer de la valeur, et ben en fait, plutôt que de passer par les banques privées, elles pourraient nous les mettre directement dans notre poche. Donc ça s'appelle le quantitative easing for the people, la création monétaire pour le peuple. Ça ferait quand même 150 euros par citoyen européen et par mois. Alors, elle nous les donnerait, ce serait un prêt, mais illimité. Et elle pourrait même prêter directement aux États pour leurs services publics, par exemple. Alors, dans l'article 123 du traité de Lisbonne, il est bien dit que la BCE ne peut pas donner ou prêter directement aux États. Mais par contre, elle oublie de parler des citoyens. Donc là, il y a un flou juridique qu'on pourrait capter, et même Mario Draghi a dit que l'idée du quantitative easing est intéressante, mais pas à l'ordre du jour. Bon, pour l'instant. En tout cas, ça ne nous empêche pas de diffuser l'idée, le concept, de l'expliquer. Et comme avant 2008, la BCE gérait ou pesait à peu près 1000 milliards d'euros, et qu'en 2019, figurez-vous qu'elle pèse 4 700 milliards d'euros, ça fait presque 5 fois plus, mais pas encore trop visible dans nos assiettes. bon, plutôt dans les bulles financières. Donc on se dit que ce dividende européen, ben, en fait, un, ferait baisser les inégalités entre les citoyens et les pays de la zone euro, ça ne serait pas perdu. Deux, plongerait directement des fluidités dans l'économie réelle. Ben oui, nous, on l'utiliserait pour acheter notre pain, notre coiffeur, voilà, des biens et des services de proximité. Et du coup, ça amènerait une fluidité et ferait baisser les dettes. Alors, celle d'Olivier, bien sûr, dont on vient de parler, mais aussi les dettes des États. Alors, comme ce n'est pas un projet qui est encore tout de suite sur la table, même si certaines personnes et certaines associations, comme le Mouvement français pour le revenu de base ou Positive Money, dont le représentant est Stanislas Jourdan, bon, voilà, on a beau se battre, ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc, il y a Yolande Bresson qui a proposé une alternative transitoire pour commencer à changer le système et qu'il a appelé l'eurofranc. Alors, il a beaucoup travaillé, Yolande, sur la valeur temps. Et Nouvelle Donne, qui est un parti français qui a postulé sur certaines élections précédentes et qui vient du collectif Roosevelt. En fait, l'idée générale, c'est de se dire, bah, tiens, on va redonner à la Banque de France le pouvoir de créer de l'argent. Alors, de créer de l'argent, on n'est pas en train de sortir de l'euro, ce qui serait une catastrophe, mais de créer un euro-franc. Donc, l'euro resterait une monnaie commune aux États membres et l'euro-franc serait une monnaie nationale. Donc, la Banque de France nous créerait chaque mois, comme la BCE finalement, 150 euros-francs par citoyen français directement sur nos comptes, mais on ne pourrait l'utiliser qu'en France, une sorte de relocalisation de l'économie, mais on ne pourrait pas l'utiliser pour l'immobilier, ni les actions, ni les obligations, donc on ne pourrait pas capitaliser. Et comme ce serait en parité avec l'euro, mais pas convertible, du coup, ça évite aussi la spéculation sur les frais de change, etc. Donc cette relocalisation de la consommation sur le territoire français serait complètement compatible avec le marché européen et aussi d'autres États membres qui pourraient faire la même chose chez eux. Un exemple un peu en appui de ça, c'est l'expérimentation en Corée du Sud où sur toute une province, le gouverneur a décidé de donner aux jeunes de 24 ans 190 euros, enfin l'équivalent, par trimestre. Ce qui a permis une relocalisation de la consommation. Alors, jusqu'à un taux de 45% en hausse chez les commerces locaux, qui a amélioré la vie sociale de ces jeunes qui ont pu plus sortir et qui a fait que beaucoup de gens ont commencé à apprécier l'idée d'un revenu de base. Et ce gouverneur, d'ailleurs, espère bien être élu président aux prochaines élections nationales. Là, on a une espèce de périmètre intermédiaire entre une monnaie nationale qui relocalise l'économie et ce dont on va parler juste après, la monnaie locale complémentaire et qui va nous permettre en fait de rajouter une plus-value d'économie sociale et solidaire. On va commencer cette petite pause par une présentation du projet Terra. Ensuite, on écoutera L'argent, chanson bifluorée et enfin La vache à mille temps de Jean Poiret.
Ne pas dépendre de productions faites à l'autre bout du monde, valoriser des activités qui ont du sens, reprendre le contrôle de la monnaie pour maintenir la richesse sur le territoire et distribuer cette richesse à tous via un revenu de base suffisant pour bien vivre, c'est le projet de Terra. Une expérience locale qui, en ces temps de remise en cause du système et de crise économique, pourrait inspirer des solutions pour répondre aux inégalités, aux problèmes environnementaux, au chômage, mais aussi donner une nouvelle conception du travail.
L'argent c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des sicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements, fortunés, dotations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Est-ce que d'os, pesetas, spéculer, picaillon, des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. Facture à payer, je suis endetté, j'ai plus d'argent pour le des recettes, des savoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans, des pas, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuille, petite coupure, virement, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon. Valeur, investissement, richesse, augmentation, résultat, excédence, salaire brut, cotation. Y'a que le pognon. C'est des pièces, des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire, des milliards, des millions, le CAC 40, le Dow Jones, les rémunérations, des indices et des rentes et des fonds de pension. Y'a que le
vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, y a l'éleveur, y a la bête, et y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure, mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1 000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2 000 francs, une vache à 1 000 francs, une vache à 1 000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs. La poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1 000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que Fontanet nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1 000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5 000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5 000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6 000 francs, une vache à 6 000 francs. C'est bougrement tentant, c'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus de Paris, la vache est au Gobelin, multiplié par 20, par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette, au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là, au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi, et l'État qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on en mangeait autant, autant qu'on en voulait et plus qu'il ne fallait. À midi au dîner, dans le café au lait, de la vache à 500 francs, c'est déjà plus gênant. Moi quand mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon comptant, je privais les enfants de la vache à 1000 francs, de la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolan et se faire des homards tartinés de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé et on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre-fort, j'entasserai des rumsteaks et des coupons de beefsteak de la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache qu'on ne peut plus suivre la vache. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fous. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fous.
Initialement créé grâce à des dons et des subventions européennes et régionales, aujourd'hui Terra n'a pas peur de parler d'excédents, d'argent frais, d'investir. Frédéric Bosquet, l'initiateur du projet, tient à expliquer l'importance de ne pas laisser ces notions de côté pour créer une alternative viable.
Attention les amis, il ne suffit pas de relocaliser l'économie, ça ne marchera pas. Il faut non seulement relocaliser l'économie, mais il faut rapatrier cette valeur pour qu'elle reste sur le territoire. Et la seule façon d'aider votre producteur local, c'est de le payer en monnaie citoyenne locale. Pourquoi ? Parce que quand vous payez en monnaie citoyenne locale, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire retourner une autre mécanique qui n'alimente plus ces marchés financiers. Et vous allez restituer cette valeur à tous les acteurs qui sont dans cette deuxième mécanique.
J'ai mon ami Patrick Vivery qui dit souvent « on nous a volé nos mots ». Et malheureusement, si on laisse ces mots finalement à ceux qui nous les ont volés, on ne pourra plus penser le monde. Donc des mots comme bénéfices, comme recettes, dépenses, emplois, ressources. Et moi je pense qu'aujourd'hui que les citoyens doivent se réapproprier ces mots et se réapproprier la finance pour la remettre au service de l'économie et l'économie au service de la vie. Et pour ça ils ont besoin de mieux comprendre en fait comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne une banque, comment fonctionnent les marchés financiers, de telle façon à utiliser leur monnaie non pas seulement pour acheter des produits, mais utiliser leur monnaie comme un bulletin de vote. Et que si tous les citoyens utilisaient leur monnaie tous les jours pour voter, eh bien, les changements iraient beaucoup plus vite que voter une fois tous les 6 ans. Hein.
La clé de cette alternative, une monnaie citoyenne locale, l'abeille. Créée en 2010 par l'association Agir pour le Vivant, Terra a décidé de l'utiliser et d'en faire le centre de son modèle économique. Son but, favoriser les échanges de produits locaux et respectueux de l'environnement, mais aussi ne pas dépendre des marchés financiers et se réapproprier le pouvoir monétaire.
Lorsqu'on entie des abeilles, qu'on les échange contre des euros, l'association est obligée de garder dans un compte spécial l'équivalent en euros de toutes les abeilles en circulation.
Donc changer le monde tous les jours par juste le simple fait de consommer. Donc on peut déjà évidemment consommer éthique, on peut consommer bio. Mais avec la monnaie citoyenne locale, c'est renforcé. Alors il y a d'autres monnaies qui existent. Hein. On utilise par exemple une monnaie proche du temps. C'est les grains. Dans les systèmes d'échange locaux, si vous rendez une heure de service, vous avez 60 grains en échange. Ça marche très très bien, ça stimule l'économie locale, mais ça reste de l'économie informelle et locale. Un autre réseau est né en Suisse, on l'appelle le VIR. En fait, c'est des entreprises qui ont voulu avoir une certaine autonomie dans la fluidité de leurs échanges et qui se sont coordonnées, qui ont créer une monnaie juste pour leurs échanges inter-entreprises. À Lille, par exemple, il y a un projet de monnaie citoyenne locale qui est en cours, qui a même fleuri à un moment donné. Et aujourd'hui, ils en sont à un projet de 200 entreprises mises en réseau et dans un second temps qui sera ouvert aux citoyens. Donc les monnaies locales complémentaires, c'est quoi? Alors le mouvement du sol définit ces monnaies de façon assez simple. En gros, vous créez un sol ou une abeille, Portera, dont on parlera. C'est 1 euro égale un sol, donc on a une équivalence. Et à chaque sol qui circule, il y a 1 euro qui est bloqué et qui en assure la valeur. Et en même temps, ces euros qui sont bloqués dans la banque permettent de faire des prêts, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, par exemple. Et ces euros, ou ces sols plutôt, circulent dans un périmètre restreint, donc d'où le mot local, et dans un réseau qui est choisi sur des critères, alors des critères écologiques, des critères sociaux. Et tout ça est choisi par qui? Et ben, par une sorte de démocratie locale. Et c'est pour ça qu'on les appelle des monnaies locales citoyennes. Donc vous pourrez retrouver par exemple des vidéos sur le sol violette qui expliquent comment ils ont impliqué les gens du territoire autour de Toulouse sur cette monnaie locale. Vous trouverez aussi le film La monnaie miraculeuse, qui parle de la première monnaie locale citoyenne qui a été créée en Autriche. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment à tous essentiel, c'est le lien avec le revenu de base. Le projet Terra, donc, que vous retrouvez sur terra.coop. Le projet Terra, en fait, ça s'appelle « Tous ensemble vers un revenu d'autonomie ». Et c'est un projet concret, unique en Europe et même dans le monde, et qu'on va retrouver dans le Lot-et-Garonne. Et oui, chez nous. Frédéric Bosquet, que vous avez entendu, était un entrepreneur humaniste. Il a fait deux fois le tour de France des alternatives. Et puis, à un moment donné, avec une petite troupe joyeuse, Marie-Hélène, Simon, Olivier et d'autres, ils ont lancé sur un petit terrain qu'on leur avait généreusement offert, une réflexion pour mettre en pratique toutes les alternatives qu'ils avaient vues. Et en même temps, sur le même endroit. Donc maintenant, il y a trois lieux sur le projet Terra. Il y a un lieu qui est réservé au maraîchage, il y a du pain bio, il y a de la menuiserie, etc. Le deuxième lieu sert plutôt pour les loger, parce que le premier était trop petit. Et il y a maintenant une épicerie locale qui vend des produits, évidemment, du terrain de maraîchage, mais aussi d'autres producteurs locaux. Donc ça commence à faire un réseau, ça stimule ce petit hameau qui était en zone rurale à revitaliser. Et enfin, le troisième lieu, c'est un futur quartier rural qui sera éco-construit avec de la formation, de l'écotourisme. Donc là, on sera plutôt sur l'habitat écologique, autonome. Donc l'objectif de Terra, c'est de revitaliser un territoire rural, mais aussi de rémunérer dignement ceux qui prennent soin des communs. Et les communs, c'est quoi? C'est les projets qui sont vertueux parce qu'ils prennent eux-mêmes soin des humains et de la nature. Donc leur monnaie locale s'appelle l'abeille. Elle existait déjà avant et ils l'ont restimulée. Donc maintenant, elle est sous forme de carte. Elle est numérique. Et ces producteurs de communs, donc il y a des producteurs au sens propre, le maraîcher par exemple, mais aussi ceux qui gèrent les services de la communauté pour que tout ça puisse fonctionner, le secrétariat, la maintenance. Et en fait, la communauté a choisi, a priorisé certaines tâches qui sont essentielles pour le fonctionnement de tous. Et aujourd'hui, ils financent déjà 5 revenus, en partie grâce à des subventions, puisqu'il fallait comme ça un apport de monnaie au départ, et de plus en plus, juste par la production du réseau qui sert à engranger et à lancer cette machine économique qui était en perdition dans ce coin-là. Avec surtout un repère, c'est le seuil de pauvreté. L'idée étant que ces personnes qui prennent soin de nos communs ne vivent jamais en dessous du seuil de pauvreté. Tout ça suivi par un conseil scientifique qui permet d'analyser et de polliniser. Donc maintenant, on va écouter une autre musique qui va nous envoyer sur l'autre échelle, à l'autre bout. On a la monnaie libre qui est une monnaie internationale. Nadia, à toi.
L'argent, c'est bizarre parce que ce n'est que du papier.
Papier, monnaie, papier, monnaie. Papier, monnaie, papier, monnaie.
Les euros, les dollars, les yens, ce n'est que du papier.
Papier, monnaie, papier, monnaie, papier, monnaie, papier, monnaie.
L'argent, c'est bizarre parce que ce n'est que du vivre, ce n'est que du papier.
Papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie.
Avec le papier toilette, on ne peut pas faire d'emplette. Avec le papier crépon, même pas avoir un centon. Si vous allez chercher le pain, ne prenez pas de papier peint.
Ni le papier des bonbons, pour acheter vos bonbons.
C'est le papier d'Arménie, il n'a pas cours en Arménie. Alors le papier recyclé, c'est pas la peine d'en parler. Ici, avec du papier calque, vous payez vos catafalques. Dollars, les yens, ce n'est que du papier.
Papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie.
L'argent c'est bizarre parce que ce n'est que du papier.
Papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie.
Les pesos, les dinars, les livres, ce n'est que du papier.
Papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie.
Avec du papier brouillon, vous risquez de prendre un bouillon. Avec du papier collant, pas une paire de collants. Et pour les bougies, le glacier, ce n'est pas du papier glacé.
Papier des bonbons, pour acheter vos bonbons.
Avec du papier cadeau, on vous fera pas de cadeau. Avec du papier carton, vous ne ferez pas un carton. N'allez pas faire le marché avec du papier mâché. Ou
connaissez d'identité, parce qu'on va vous arrêter.
L'argent c'est bizarre, parce que ce n'est que du papier. Les euros, les dollars, les yens, ce n'est que du papier. Avec du papier de verre,
on peut pas se payer un verre.
On ne laisse pas de pourboire.
Avec du papier du Var,
on ne voyage pas loin.
En prenant les parchemins
pour les cartes postales,
c'est pas du papier journal.
Faut du papier timbré
pour affranchir le courrier.
Pour connaître la musique,
il faut du papier musique.
C'est bien le papier carbone
qu'a fait plonger Al Capone.
Comme on disait dans le temps,
y'a plus de sous papa, y'a plus de sous maman.
Les sous qu'on a c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas.
Oui monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôt. Oli, vache bon sang de bon soir.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole donnée, cochon qui s'en dédie.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos biques, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Oli, vache bon sang de bon soir.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants. Et la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons. Mais l'important, c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon.
Ah oh, ouais, monsieur.
Mais au jour jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit ça, le grand-père rabbin failli claquer.
Bonsoir, bonsoir, y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman. La chouchette n'est plus la chou comme on disait dans le temps. Y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman. Les choux qu'on achète des choux, mais ça n'est plus de la langue.
Y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman.
La chouchette n'est plus la chou comme on disait dans le temps.
Y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman.
Les choux qu'on achète des choux, mais ça n'est plus de la langue.
Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher les petits voyages en Suisse.
Qui suis-je ?
Une banquière.
J'ai pas encore lu. Je ne veux plus nager dans les eaux troubles des flux financiers, liquider des assurances vie à des personnes âgées, arroser les gros poissons de la fraude, être impuissante face à ceux qui boivent la tasse, noyer d'agio les gens sans liquidité. Avec un revenu de base, j'aimerais apporter de l'eau au moulin de l'économie locale et durable. Démocratiser la création monétaire, aider les jeunes à se jeter à l'eau, sécuriser les familles contre vents et marées, et avoir des gens solvables qui vivent la tête haute. Et je suis une banquière, exactement Cyril, parce que les banquiers, quoi qu'on en pense, ils n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir des liquidités pour pouvoir prêter, pour pouvoir faire agir, pour pouvoir accepter certains marchés et même prendre quelques risques, parce que sur les marchés en ce moment, ils n'en prennent pas beaucoup. Alors, la monnaie libre, une petite parenthèse pour aller en contrepoint de ce que tu vas nous présenter, Cyril. C'est le fameux Bitcoin que, sans doute, vous avez entendu parler, dont sans doute vous avez entendu parler. Le Bitcoin, c'est quoi ? Alors, c'est une monnaie complètement inventée qui est numérique, donc complètement dématérialisée. Mais cette monnaie est limitée. Donc, il y a un stock qui est limité partout dans le monde. Et qui dit limité, dit les premiers servis, les plus riches. Qui dit aussi limité, dit spéculation et inflation. Donc on voit les prix du Bitcoin qui flambent régulièrement, qui s'écrabouillent très rarement et qui remontent aussi sec, encore plus haut. Pourquoi le Bitcoin ? L'intérêt, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, ni étatique, ni bancaire. Il n'y a aucune taxe non plus. Donc c'est une façon d'échanger, de passer d'une monnaie à l'autre sans argent. Alors bien sûr, on pourrait se dire que c'est intéressant, individuellement et même collectivement. Il y a peut-être même un petit goût d'anarchisme, de libertarisme. Sauf que le Bitcoin sert surtout, un, à contourner les taxes qui financent nos services publics. N'oubliez pas, l'impôt, c'est un pot commun. Et aussi à blanchir de l'argent, l'argent de la drogue, l'argent des armes, etc. Et récemment, on a quand même été alerté sur le coût écologique du Bitcoin, parce que pour assurer la sécurité des multiples cryptages et évidemment s'assurer que vous ne pouvez pas aller inventer des Bitcoins qui viendraient de n'importe où, il faut des tonnes et des tonnes d'ordi. Il y a même des fermes d'ordinateurs qui sont réservées pour le Bitcoin. Je ne vous dis pas le prix écologique en fabrication et aussi en énergie. Heureusement, on a une alternative pour vous qui s'appelle la monnaie libre, qui vient d'un ingénieur français, Cyril. C'est ça. Cocorico, on t'écoute, c'est quoi cette monnaie libre ?
Donc c'est Stéphane Laborde qui effectivement a écrit un bouquin qui s'appelle « La théorie relative de la monnaie » sur laquelle vient se baser cette monnaie libre. Je fais une petite parenthèse quand même d'abord pour parler du mot libre avant de parler de la monnaie libre en tant que telle. Donc on est vraiment sur le domaine de la culture du libre, qui vient au tout départ de l'open source logiciel, où l'idée est de diffuser, ouvrir en tout cas la recette du logiciel, la recette de l'objet, de l'outil, pour que chacun puisse l'étudier, la partager, enfin la modifier éventuellement et la repartager par la suite. C'est comme ça qu'on vient trouver Linux qui propose plein de versions possibles différentes. On a aussi Firefox qui est dans le même état d'esprit, Wikipédia aussi du coup qui est l'encyclopédie libre et qui est dans cette même mouvance. Tout à l'heure je parlais de machine open source, c'est le même principe. On vient concevoir par et pour l'usager, donc à l'opposé extrême de l'obsolescence programmée, et on diffuse les plans pour que chacun puisse fabriquer ce qu'il a fait. Donc là, dans cette culture du libre, un nouveau volet, la monnaie, l'économie, qui est traité avec cette monnaie libre. Nous voilà un peu pour le contexte. Maintenant, le pourquoi. Donc, on l'a abordé en début d'émission. La monnaie telle que l'euro, le dollar, le yen est créée par la dette, par les emprunts. Donc, pourquoi la monnaie libre ? C'est pouvoir avoir un outil monétaire d'échange sans, en se passant des banques, sans avoir besoin de recourir à la dette pour créer la monnaie.
Du coup, sans être obligé de les renflouer ou de donner de l'argent en plus qui va dans des poches qu'on ne choisit pas démocratiquement, quoi.
Exactement. Donc, comment est créée la monnaie libre ? C'est assez simple. C'est, donc, la monnaie libre est créée par un dividende universel. C'est-à-dire que chaque personne du réseau qui utilise la monnaie libre se voit créditer tous les jours sur son compte un dividende universel. Donc, cette monnaie, elle est créée par l'être humain. Le simple fait d'être un être humain vivant, reconnu tout de même par le taux de confiance, est suffisant comme critère pour créer de la monnaie tous ensemble.
Sans rien faire.
Sans avoir besoin de rien faire.
Mais ça ressemble à un revenu de base, ça ?
Ça peut s'apparenter à un revenu de base. Alors, il y a des débats un petit peu dans la communauté monnaie libre pour savoir si le dividende universel est un revenu de base ou pas, mais ça peut s'y apparenter, et on le verra juste après. Ça dépend aussi de la valeur qu'on y met, cette monnaie libre. Donc là, en grande différence par rapport aux monnaies locales, c'est que là, il n'y a pas du tout de taux de change. On ne peut pas dire aujourd'hui, autant d'unités de monnaie libre est égal à autant d'euros. Ça n'existe pas.
Pas adossé sur l'euro. Donc, il n'y a pas de stock d'euros qui valide la valeur
pas.
De tout ça.
Tout est entièrement, d'ailleurs, du coup, gratuit pour arriver sur la monnaie libre. Et cette monnaie qui est créée par tout le monde, elle vient de nulle part. Comme les banques prennent le droit de créer des euros, là, c'est le logiciel qui va donner, donc créer de la monnaie par ses membres, par les êtres humains vivants qui constituent le réseau. Et c'est donc un des moyens d'en obtenir. C'est donc de créer de la monnaie chacun.
Donc c'est comme si nous, chacun en tant qu'individu, en tant que citoyen d'un collectif, on se donnait le pouvoir de créer notre propre monnaie.
Exactement. Et donc, tu parlais du Bitcoin juste avant. C'est surtout, par rapport au terme écologique, c'est surtout la création monétaire du Bitcoin qui est horrible au niveau en terme écologique. C'est que, en fait, c'est les ordinateurs qui doivent faire une preuve de calcul, qui doivent donc fonctionner avec du courant électrique pour fonctionner et pour être refroidi. Et plus cet ordinateur fait de calcul, plus il y aura de Bitcoin créé. C'est ce mécanisme-là qui crée le Bitcoin. Donc, il y a un toute petite chose qui est similaire entre la monnaie libre et le Bitcoin, c'est qu'on passe par la même technologie, la blockchain, pour la sécurisation. Par contre, la création se fait par le fait d'être humain. Donc en fait, il n'y a pas du tout de course au calcul informatique pour créer la monnaie, c'est l'être humain qui la crée. Donc il y a un réseau de blockchain qui permet de sécuriser l'ensemble, mais qui est très peu gourmand en énergie. On peut faire tourner sur un petit ordinateur de 5 watts un nœud du logiciel qui permet de créer ce réseau et cette blockchain pour cette monnaie libre.
Donc c'est plus écologique.
Complètement. Complètement. Et aussi beaucoup plus égalitaire, c'est-à-dire que chaque personne, quel que soit où il se trouve et quelle que soit l'année en question, chacun va créer un dividende universel tous les jours. Donc comme tu le disais, effectivement, les gens qui ont créé le Bitcoin sont les plus riches en Bitcoin aujourd'hui. Avec la monnaie libre, même des gens qui vont arriver dans 15 ans ne seront pas ou peu défavorisés par rapport aux plus anciens.
Mais moi, je suis très frustrée parce que ça fait 8 ans que je fais partie du réseau de la monnaie libre. Je reçois toujours 10 junes. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle, 10 junes par jour. Donc ça veut dire, tu veux dire que je ne serai pas plus riche que les nouveaux arrivants ?
Oui, et c'est même, entre guillemets, pire que ça. Enfin, mieux que ça, on va dire. La monnaie libre est aussi une monnaie fondante. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand la monnaie était créée, effectivement, le dividende universel, le DU, était égal à 10 junes. Bon, ce qu'il faut que j'explique un petit peu, c'est qu'il y a deux unités dans la monnaie libre. Il y a l'unité principale, la june. Donc on parle d'unité de monnaie libre, donc au niveau de la june, et on a aussi l'invariant qui est le dividende universel. Donc cet invariant, comme son nom l'indique, ne variera pas en fond, quoi que ce soit, enfin, par rapport au fait qu'on soit en France ou n'importe où, ou qu'on soit en 2021 ou n'importe quand. Par contre, ce dividende universel va augmenter en nombre de junes dans le temps. Donc au lancement il y a 4 ans, effectivement, un DU est égal à 10 junes. Aujourd'hui, on est à 10,32, si je ne me trompe pas. D'ici plusieurs années, en fonction de comment la communauté va grandir, en fonction de comment la masse monétaire de la june va grandir aussi, on peut anticiper qu'on pourrait avoir un dividende universel à 40-50 junes.
Donc il n'y a pas d'inflation en fait.
C'est même mieux que ça, c'est une déflation. C'est-à-dire que les junes qui sont créées aujourd'hui, donc chacun 10 tous les jours, vaudront 5 fois moins cher que dans 10 ans, puisqu'on en créera 50 tous les jours par personne. Donc, il n'y a aucun intérêt de l'épargner. On est bien mieux à l'utiliser, à le faire circuler. Et on pourrait même que ce soit rentable pour un prêteur de venir prêter à taux zéro. Je m'explique. Si aujourd'hui, je prête 3 DU, 3 dividendes universels, avec du coup le nombre de junes correspondant aujourd'hui, et qu'on me les rend dans 6 mois ou dans un an, on me rendra toujours 3 DU,
même chiffre.
Mais en nombre de junes, ça aura évolué. On va se baser sur le nombre de junes à ce moment-là. Donc moi, j'aurais reçu plus de junes que ce que j'ai prêté, et le prêteur aura emprunté des DU et rendu des DU. Donc on va suivre la progression de la valeur de la monnaie libre.
Alors du coup, si je te suis bien, par rapport à tout ce qu'on a vu de tous ces intérêts qu'il faut payer à tous les étages, le transport, la création, la fabrication, même les services, sur chaque chose qu'on achète, il y a une part d'intérêt qu'il faut payer parce que quelque part, il y a une dette pour acheter le camion, pour acheter l'outillage, etc. Donc plutôt que d'avoir comme ça cet énorme frein à l'économie, aux échanges, là c'est plutôt l'inverse, puisqu'on a des liquidités régulièrement sur chaque individu.
C'est ça.
Et en plus, le fait de prêter, ça revitalise, on est stimulé à prêter pour revitaliser à chaque fois, inciter à échanger finalement.
Exactement, tout à fait.
Mais alors concrètement, donc imaginons quelqu'un me demande comment est-ce que je peux rentrer dans ce réseau, parce que c'est quand même très intéressant. Ça, on a vu que ça permet d'éviter de donner de l'argent aux banques, de jouer ce jeu inégalitaire auquel on est quand même contraint globalement. Donc là, on pourrait avoir une marge de manœuvre et d'échange libertaire, en tout cas différente, alternative. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, il y a plusieurs manières d'entrer dans la monnaie libre. La manière la plus simple et qui est ouverte à tous, c'est de commencer par vendre des choses pour gagner de la monnaie libre avant de pouvoir la dépenser et acheter d'autres choses. Donc pour ça, on a un site web, on en a même plusieurs, mais le principal, c'est J'échange, donc avec un G, qui permet de proposer des annonces de choses à vendre, de produits, de services en monnaie libre. Donc c'est un peu le bon coin de la monnaie libre, on va dire. Voilà, ça c'est la manière la plus simple d'utiliser la monnaie libre, c'est de commencer par vendre des choses. Je parlais de création de monnaie libre, donc là, un petit point à ce niveau-là. Puisque chaque personne va créer, puisque chaque compte va créer de la monnaie, il faut s'assurer qu'une personne physique n'ait qu'un seul compte qui crée de la monnaie. Sinon,
nos avatars, je pourrais avoir 10 comptes.
Voire beaucoup plus. Donc pour parer tout ça, on a une toile de confiance qui est un réseau de toutes les personnes qui créent de la monnaie libre aujourd'hui. Et pour y rentrer, il faut que au moins 5 personnes du réseau viennent certifier un nouveau pour qu'ils puissent rentrer. Les certifications, c'est quoi ? C'est donc 5 personnes qui disent « Ok, je connais suffisamment cette personne pour savoir qu'elle n'aura créé qu'un seul compte. Je peux la contacter, la retrouver, etc. etc. » et discuter. Et donc, de proche en proche, on va pouvoir avoir un réseau de plus en plus grand entre les gens qui vont être, entre guillemets, cooptés par les premiers en disant « Voilà, je le connais suffisamment, je lui fais confiance, je sais qu'il n'a qu'un seul compte, donc je le certifie. » Et à son tour, une fois qu'il a 5 certifications reçues, il crée de la monnaie tous les jours.
Et après, il va pouvoir certifier d'autres.
Il pourra en certifier d'autres. Et donc, il en crée tous les jours et a aussi la possibilité de certifier d'autres personnes pour le faire rentrer dans le réseau.
C'est ce que tu appelles la toile de confiance.
Voilà, toile de confiance qui s'élargit de plus en plus. On en est aujourd'hui à environ 3000 membres, 3200, principalement en France. Mais comme tu le disais, ça a aussi vocation à s'exporter un peu. Il n'y a pas de limite géographique, on va dire, ni dans le temps.
J'ai vu le témoignage d'une juniste qui donc fait partie du réseau et qui explique, elle, que c'est pas tant pour les échanges que ça l'intéresse, même si elle en fait quelques-uns, des pots de confiture, des choses comme ça. Mais c'est aussi sur l'idée que c'est une alternative crédible et même souhaitable en cas d'effondrement monétaire. Donc elle explique que si la Grèce avait eu ça, elle aurait pu être plus indépendante par rapport à la BCE et puis moins bradée, que ce soit ses terrains, ses services publics, sa santé et donc la vie des habitants directement, quoi.
Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de taux de change officiel. On ne peut pas dire un euro vaut autant de junes. Donc c'est un avantage dans le sens où quand l'euro si l'euro se dévalue énormément ou une inflation énorme, la monnaie ne sera pas impactée. Et ce qui est intéressant dans le dividende universel, qui est donc un invariant, c'est qu'on peut exprimer nos prix en dividende universel, en DU. Et donc, on peut se dire, mon heure de travail, ma journée de travail, j'estime qu'elle équivaut à autant de dividendes universels. Et donc ça, c'est censé pas forcément être modifié dans le temps non plus. Sauf si, bien sûr, on acquiert une nouvelle compétence, ce genre de choses. Mais on peut avoir du coup des repères qui soient relativement fixes et qui ne soient du coup pas impactés par quoi qu'il puisse se passer dans l'économie locale ou mondiale.
En fait, je trouve qu'à travers cette réappropriation de la monnaie, cette démocratisation, là, pour le coup, complètement, presque absolue, puisque c'est chaque citoyen qui porte sa propre création monétaire et qu'il reçoit, on a en fait une réconciliation de notre slogan national, quoi. On a bien la liberté, puisqu'on fait absolument ce qu'on veut de ça. On a bien l'égalité, puisque chaque individu est complètement égal aux autres, puisqu'il reçoit la même somme. Et du coup, la fraternité à travers la toile de confiance. Et le périmètre d'utilisation de cette monnaie.
Alors, je me permets un petit point par rapport à la liberté. La monnaie libre est quand même soumise aux lois françaises. Donc, la loi française aujourd'hui considère la monnaie libre comme une crypto-monnaie. Et donc, il faudra suivre la loi Pacte par rapport à tout cela. Donc, ce n'est pas exclu que le producteur local, par exemple, doive payer sa TVA en euros, même s'il vend en monnaie libre. Donc là-dessus, on est en train de finaliser des recherches juridiques et fiscales, et comptables d'ailleurs, sur le fonctionnement de cette monnaie libre et du coup indiquer aux professionnels comment l'utiliser correctement dans les clous par rapport à la loi française.
Et en fait, donc un peu en parallèle avec les monnaies locales, finalement, on a cette même dynamique vertueuse du territoire plus ou moins grand. Là, on est carrément sur l'international. Donc, nous, ce qu'on peut faire là maintenant, c'est inviter ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse, à aller sur le site. Alors, j'échange déjà pour commencer, puis après se faire un compte, c'est ça ?
Tout est inscrit sur monnaie-libre.fr. Donc, c'est vraiment le site principal de Monnaie Libre, monnaie-libre.fr, où on réexplique un petit peu le concept de base. Et après, on va aiguiller en fonction de si la personne veut commencer à faire des échanges. Effectivement, ce sera sur j'échange.fr qu'on pourra faire tout ça. Et des groupes locaux qui sont constitués un peu partout en France. Et c'est notamment sur le forum qu'on peut aller contacter ces différents groupes locaux, dont celui de Lille, où on relève les messages régulièrement pour pouvoir accueillir le nouveau et expliquer encore une fois comment fonctionne la monnaie libre et la suite. Et d'ailleurs, avec le groupe du coup de Lille et environ, on se retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois en visio à 18h30. Donc la prochaine, ce sera en septembre, ce sera le 8 septembre du coup, 18h30 en visio. N'hésitez pas à aller sur le forum de la monnaie libre pour indiquer votre intérêt à venir et on vous enverra le lien pour la visio.
Et du coup, après le forum, on se sera rencontrés, on pourra se faire confiance, se certifier, rentrer dans le réseau, commencer à échanger.
C'est un peu ça.
Et avec cette dynamique qui est lancée de « on échange, les producteurs s'en mêlent, les producteurs eux-mêmes peuvent se fournir dans le réseau ». Et on a comme ça tout un réseau d'échanges protégés aussi des aléas monétaires et politiques ou démocratiques ou plus ou moins démocratiques. Mmh. Et donc, on revient un peu aussi à ce que Frédéric Bosquet disait tout à l'heure, que ce soit en monnaie libre ou en monnaie locale. En fait, on devient consomme-acteur. On peut voter grâce à notre façon de consommer.
C'est sûr qu'on développe la résilience locale avec ce genre de projet, effectivement.
Merci beaucoup, Cyril, d'être venu, de t'être déplacé rien que pour nous. Donc, vous retrouverez tout ça bientôt dans un article qui reprendra toutes ces idées-là et qui paraîtra sur revenudebase.info avec des liens vers des vidéos et d'autres documents. Évidemment, on vous rappelle qu'il y a l'initiative citoyenne européenne à signer pour propulser cette idée au niveau européen et faire que le Parlement européen finance des études ou les accompagne, aide un accompagnement scientifique autour d'expérimentations en Europe. Et on se donne rendez-vous pour le mois d'août où le thème sera le temps libéré. Je vais y arriver. Je crois que je suis déjà en vacances, enfin, dans mes rêves. Donc, rendez-vous sur Radio Campus 106.6 et l'émission le premier vendredi de chaque mois, Tous Essentiels. Merci Cyril et merci Nadia.
Merci à vous.
Merci. commerçant, au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.